Ligne 7 du métro de Paris. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org. La ligne 7 du métro de Paris est une des 16 lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle traverse la capitale du nord-est au sud-est en suivant un tracé légèrement incurvé et relie les stations La Courneuve 8 mai 1945 au nord-est en Seine-Saint-Denis à Mairie d'Ivry et Villejuif-Loiragon, au sud-est, dans le Val-de-Marne, en passant par le centre de Paris. La ligne a été mise en service à partir de 1910. Elle est la seule du réseau, avec la ligne 13, à disposer d'un embranchement. Celui-ci était d'abord situé au nord, mais il a été débranché en 1967. La branche Louis-Blanc-Pré-Saint-Gervais est exploitée depuis de façon autonome sous le nom de ligne 7 bis. Depuis 1982, un nouvel embranchement a été créé au sud cette fois, en direction du Kremlin-Bicêtre, puis de Villejuif, à partir de la station Maison-Blanche. La ligne 7 est également une des plus longues, avec 18 km, celle comportant le plus grand nombre de stations, et la troisième plus fréquentée du réseau, avec 120 millions de voyageurs en 2004. Partie 1. Histoire. Sous-partie 1. Chronologie. 5 novembre 1910. Inauguration du premier tronçon entre Opéra et Porte de la Villette. 18 janvier 1911. Inauguration du tronçon Louis-Blanc-Pré-Saint-Gervais, exploité sous la forme d'un embranchement. 1er juillet 1916. Prolongement au sud jusqu'à Palais-Royal. 16 avril 1926. Prolongement au sud jusqu'à Pont-Marie. 15 février 1930. Ouverture de Place Monge jusqu'à Place d'Italie, tronçon exploité pendant un an par la ligne 10. 7 mars 1930, prolongement jusqu'à Porte de Choisy pour la ligne 10. 3 juin 1930, prolongement jusqu'à Pont-Sully. 26 avril 1931, traversée de la Seine, raccordement à Place Monge au tronçon déjà construit et exploité par la ligne 10, et prolongement au sud jusqu'à Porte d'Ivry. 1er mai 1946, prolongement au sud jusqu'à Mairie d'Ivry. 3 décembre 1967, la branche Louis-Blanc-Pré-Saint-Gervais est isolée pour constituer une ligne indépendante, la ligne 7 bis. 4 octobre 1979, prolongement au nord jusqu'à Fort-d'Aubervilliers. 10 décembre 1982, création d'une nouvelle branche au sud entre Maison-Blanche et le Kremlin-Bicêtre. 28 février 1985, prolongement de cette branche au sud jusqu'à Villejuif-Loiragon. 6 mai 1987, prolongement au nord jusqu'à La Courneuve, 8 mai 1945. Sous-partie 2, création de la ligne 7. Article connexe, ligne 7 bis du métro de Paris. Le projet initial de 1898 prévoit une desserte radiale nord-est, dite ligne H, entre la place du Danube et Palais-Royal. Certains ouvrages sont réalisés dès la construction des lignes en correspondance, en particulier l'ouvrage de croisement sous la place de l'Opéra lors de la construction de la ligne 3 en 1903, puis la station double de la gare de l'Est en 1906 lors de la réalisation de la ligne 5. La construction du tunnel vers les Buttes-Chaumont est très difficile à cause de la nature du terrain et de la présence de nombreuses carrières souterraines de gypse sommairement remblayées. Le tunnel est parfois édifié sous la forme d'un viaduc souterrain établi sur des piliers de béton hauts de 25 mètres appuyés sur le sol résistant. Bien que concédé plus tard, le premier tronçon est ouvert d'Opéra à Porte de la Villette le 5 novembre 1910. Le second tronçon est ouvert le 18 janvier 1911 de Louis Blanc à Pré-Saint-Gervais, retardé par les difficultés de construction. Les stations Buttes-Chaumont et Place des Fêtes ne sont ouvertes que le 13 février 1912. L'exploitation se déroule en envoyant des trains du tronçon central alternativement vers chacun des deux terminus, rompant avec l'exploitation traditionnellement en simple navette sur le reste du réseau. Sous-partie 3, prolongement au Palais Royal. Il est prévu, dès la conception de la ligne, qu'elle aboutisse au Palais Royal afin de donner correspondance à la ligne 1. Une station terminale est prévue selon les premières études sous la place du Carrousel, ce qui permet en outre un prolongement futur vers la rive gauche, à Saint-Germain-des-Prés ou vers le Luxembourg. Mais le refus des Beaux-Arts d'autoriser un passage sous le palais du Louvre, par crainte de l'ébranlement du bâtiment dû au passage des rames, remet en cause le projet. Pendant ce temps, la construction de la ligne est réalisée en décembre 1909 jusqu'à l'avenue de l'Opéra, à la hauteur du carrefour de la rue des Petits Champs. Il faut donc d'urgence trouver un nouvel itinéraire vers l'est, faute de pouvoir se diriger vers le sud, mais la place du Théâtre Français est trop exiguë pour permettre l'aménagement d'un terminus. Le réseau complémentaire est alors concédé, prévoyant une extension de la ligne jusqu'à Hôtel de Ville, puis la Bastille. En première urgence, il est décidé de construire un terminus provisoire, place du Palais-Royal, dans l'axe de la rue Saint-Honoré. L'extension, longue de seulement 650 mètres, est acceptée par la ville le 23 mars 1912. Les travaux durent plus de 2 ans à cause des difficultés de construction de la station terminale. Le tunnel est remis à la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, CMP, le 22 décembre 1914, mais celle-ci déclare ne pouvoir exploiter la ligne qu'une fois un tronçon de 120 mètres réalisé au-delà du terminus pour établir un trottoir de manœuvre. La ville aménage ce nouveau prolongement, ce qui retarde encore l'ouverture d'un an et demi. Le prolongement au sud est finalement ouvert jusqu'à Palais-Royal en Première Guerre mondiale, le 1er juillet 1916, avec un simple revêtement de maçonnerie dans les stations à cause de la pénurie de carreaux de faïence causée par la guerre. Sous-partie 4. Prolongement à Pont-Marie. À la fin de la Première Guerre mondiale, les travaux d'extension au sud sont achevés jusqu'à la rue de Marengo, mais ils ne sont entièrement repris qu'en 1921, s'étendant du Louvre au pont Louis-Philippe. Le tracé, difficile, contourne le Louvre par une série de courbes, puis se place sous les quais de la rive droite de la Seine. Le prolongement de 3 stations, toutes voûtées jusqu'à Pont-Marie, est ouvert le 16 avril 1926. Sous-partie 5. La traversée sous fluviale. Article connexe, ligne 10 du métro de Paris. En 1927, les travaux de prolongement au sud de la ligne démarrent de Pont-Marie à Porte de Choisy. La traversée sous fluviale prévue à l'est du pont de Sully est adjugée la même année. Mais compte tenu des difficultés que présente la construction d'une traversée sous-fluviale et la durée de sa construction, on envisage dès 1927 de relier le prolongement de la ligne 7, en cours de réalisation au sud de Jussieu à Porte de Choisy, à la ligne 10. Dans cette optique, on décide de créer un raccordement à double voie entre la station Maubert de la ligne 10 et Place Monge de la future ligne 7, afin que les rames de la ligne 10 empruntent provisoirement ce tronçon de la ligne 7, en attendant l'achèvement du tunnel sous-fluvial qui réunira les tronçons nord et sud de cette ligne. La ligne 10 arrive à Place d'Italie le 15 février 1930, puis le 7 mars de la même année à Porte de Choisy. Elle emprunte les voies de la future ligne 7 pendant un peu plus d'une année. Sur la rive droite, la rapidité des travaux permet de prolonger la ligne 7 d'une nouvelle station, de Pont-Marie à Sully-Morland, le 3 juin 1930. Cette station est la première de la ligne à être réalisée à 105 mètres de longueur. Le tunnel sous-fluvial, en tube, d'une longueur de 678 mètres, est réalisé selon les méthodes du bouclier, à l'exception de la partie nord, en courbe, creusée à l'abri d'une voûte en maçonnerie. En effet, la disposition particulière des lieux impose d'établir un souterrain en courbe de 130 mètres de rayon sur la rive droite, sous les magasins de la ville de Paris. Sur la rive gauche, il faut passer sous la voie du chemin de fer d'Orléans, actuelle ligne C du RER, et sous les vastes caves de la Halle aux Vins. La section en alignement droit utilise des anneaux, longs de 75 cm, formés de 12 voussoirs et d'un voussoir de clé. La voûte du tunnel est placée à 4 mètres sous le lit du fleuve, dans un terrain calcaire glauconieux. La construction du tunnel proprement dit se déroule du printemps 1927 à la fin de 1930, le travail s'effectuant dans de l'air comprimé à 1,2 kg par cm carré. Dans le même temps, les travaux du prolongement à Porte d'Ivry s'achèvent en février 1931. Le nouveau terminus à 3 voies se prolonge par une voie en tiroir, aboutissant à un nouvel atelier de conception moderne situé à la Porte de Choisy. Sous-partie 6, les remaniements de lignes des années 1930. Article connexe, ligne 8 du métro de Paris, ligne 10 du métro de Paris et ligne 13 du métro de Paris. Le 21 avril 1931, le tunnel sous-fluvial de la ligne 7 est achevé ainsi que la station Jussieu. La réalisation de cette station a nécessité des travaux considérables compte tenu de la situation sous la Halle aux Vins, emplacement de l'actuelle faculté des sciences de Jussieu. Les cuves sont soutenues par des berceaux de béton prenant appui de chaque côté des pieds droits. Les quais des lignes 7 et 10 sont accolés. Le même jour se déroule la modification de l'exploitation des deux lignes. La ligne 7 est prolongée de Sully-Morlan sur la rive droite à Porte d'Ivry et les rames de la ligne 10 abandonnent le tronçon méridional de la ligne 7 au profit de celle-ci et empruntent la nouvelle voie jusqu'à Jussieu. La ligne 7 traverse dorénavant Paris du nord au sud, d'une porte à une autre, et prend sa forme parabolique. Sous-partie 7. L'extension à Ivry. Un nouveau prolongement de deux stations jusqu'à la mairie d'Ivry-sur-Seine est entrepris et le tunnel est presque achevé en 1939. Mais les travaux s'interrompent à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ils seront repris à la Libération par les départements de la Seine, l'infrastructure étant remise à la CMP le 25 janvier 1945. L'extension est ouverte le 1er mai 1946 pour la fête du travail et donne l'occasion de diverses manifestations locales. Sous-partie 8. Création de la ligne 7 bis. Article connexe. Ligne 7 bis du métro de Paris. Les deux branches nord de la ligne connaissent un important déséquilibre de fréquentation. La branche Porte de la Villette est nettement plus fréquentée du fait qu'elle constitue un important terminus de ligne de bus de banlieue. Ainsi, le 3 décembre 1967, la branche Louis-Blanc-Pré-Saint-Gervais est isolée pour constituer une ligne indépendante, la ligne 7 bis. La ligne 7 est dotée d'un PCC en 1969. La ligne 7 bis est la dernière du réseau à en être équipée en février 1975. La méthode d'exploitation des départs programmés est expérimentée sur la ligne à partir du 11 mai 1969. Elle permet de réduire l'intervalle minimum entre les trains de 115 à 95 secondes, ce qui permet de faire circuler simultanément 58 trains au lieu de 50, soit une augmentation de capacité de 21%. Les départs programmés sont ensuite généralisés sur le réseau. Sous-partie 9. L'extension à Villejuif. Un prolongement de la ligne vers Villejuif, suivant l'axe de la route nationale, est envisagé puis mis en chantier. Il prend la forme d'un débranchement par le biais d'un saut de mouton souterrain à hauteur de la porte d'Italie. L'exploitation en deux branches est considérée comme acceptable, le potentiel de trafic étant relativement équilibré sur chaque branche. La première section du prolongement réalisée à ciel ouvert, d'une seule station jusqu'au Kremlin-Bicêtre, est ouverte le 10 décembre 1982. La seconde section, jusqu'à Villejuif-Louis-Aragon, est ouverte le 28 février 1985. Sous-partie 10. Prolongement en Seine-Saint-Denis. En juin 1975, le syndicat des transports parisiens décide le prolongement de la ligne 7 au nord jusqu'au fort d'Aubervilliers avec deux stations classiques à quai latéraux. Cette extension de 2375 mètres suit la route nationale 2 et se raccorde à la boucle de l'ancien terminus de la Villette. Les travaux démarrent en mars 1967 pour la première section, puis en mai 1977 pour la seconde. Hormis les ouvrages de raccordement à la boucle de la Villette, le tunnel est réalisé à ciel ouvert. Le prolongement est ouvert le 4 octobre 1979. Les voies de la boucle sont depuis utilisées comme garage. Le 6 mai 1987, la ligne est de nouveau prolongée au nord d'une station jusqu'à La Courneuve 8 mai 1945 afin de donner correspondance à la ligne 1 du tramway ouverte en 1992. Partie 2. Tracé et station. Sous-partie 1. Tracé. La longueur totale de la ligne 7 est de 18 km 594 m. Elle est entièrement souterraine. Avec 38 arrêts, c'est la ligne qui compte le plus de stations du réseau. Au sud, deux branches desservies en alternance se séparent à la station Maison-Blanche vers Villejuif-Louis-Aragon et Mairie d'Ivry. Au nord, la ligne naît à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis, au carrefour des quatre routes, au croisement de la route nationale 186 et de la route nationale 2. La station La Courneuve 8 mai 1947 est en correspondance avec la ligne 1 du tramway. La station comporte trois voies, dont une centrale utilisable pour les départs ou les arrivées. Elle se prolonge par trois voies de garage en direction du Bourget, sous la route nationale 2, dont une sert de tiroir de manœuvre. Située sous la route nationale 2, la ligne se dirige en direction du sud-ouest et dessert les stations Fort d'Aubervilliers et Aubervilliers-Pantin 4 chemins. 400 mètres plus loin, elle pénètre dans Paris en se séparant en deux tunnels pour aborder la boucle de la porte de la Villette. La voie 1, provenant du nord, descend en pente de 40 pour 1000, soit 40 mm par mètre ou 4%, pour passer sous les trois voies de la boucle de l'ancien terminus, actuellement utilisé comme garage, et sous les voies de raccordement vers les ateliers de la Villette. La voie 1 remonte au niveau de la voie 2 et atteint la station Porte de la Villette à 4 voies. Le tracé redescend en pente de 40 pour 1000 pour passer sous le canal Saint-Denis, puis remonte par une rampe également de 40 pour 1000 avant de desservir la station Corentin-Cariou. Après deux autres stations, la ligne atteint la station de correspondance Stalingrad, puis se positionne sous la rue Lafayette. Entre les stations Stalingrad et Château-Landon, le tracé passe au-dessus de la ligne 5 et sous un important égout, puis les deux voies suivent des parcours séparés et desservent deux stations à des niveaux différents à Louis-Blanc. Cette situation résulte du raccordement de l'ancienne branche de la ligne vers Pré-Saint-Gervais, devenue depuis la ligne 7 bis d'exploitation autonome. En pente de 40 pour 1000, les deux voies se rejoignent après la station Château-Landon où elles sont séparées par un pied droit central. Une courbe serrée en pente permet au tunnel de se placer devant la gare de l'Est en direction de l'Ouest. La station Gare de l'Est est partiellement accolée à celle de la ligne 5, à laquelle la ligne 7 est reliée par un court raccordement à la sortie de la station. La ligne 4 passe juste sous ce complexe. Le tracé se poursuit dorénavant vers l'Ouest, sous la rue de Chabrol, sur le tunnel des RER B et D, puis de retour sous la rue Lafayette, où le tracé s'incurve vers le Sud-Ouest. Le long d'un alignement droit de plus de 1600 mètres, elle dessert 4 stations. À la station Chaussée-d'Antin, raccordement relie les lignes 3 et 7, puis le tracé passe au-dessus de la ligne 9, sous la rue Lévy, sur le flanc est de l'Opéra Garnier. Sous la place de l'Opéra, la ligne croise au niveau intermédiaire les lignes 3 et 8, placées dans un ouvrage commun, puis le RER A, situé plus en profondeur. La ligne dessert alors la station de correspondance Opéra avant de se placer sous l'avenue de l'Opéra en direction du sud-est. Le tunnel remonte à fleur de sol pour passer au-dessus du collecteur de Clichy. La ligne dessert les stations Pyramide puis Palais-Royal. Le tracé devient alors particulièrement tortueux pour se positionner sous le quai du Louvre, passe sous le tunnel de la ligne 1 avant d'atteindre la station Pont-Neuf. Entre les stations Pont-Neuf et Châtelet, le tunnel est élargi à 3 voies sur une centaine de mètres et il y était installé une voie de garage centrale raccordée à une voie de circulation à chaque extrémité. Celle-ci peut également être utilisée pour un service provisoire ou une manœuvre d'évitement. Le tracé se situe dorénavant sous les quais de Seine, sur la rive droite. La ligne atteint la station de correspondance Châtelet, puis dessert la station Pont-Marie et Sully-Morland, le tracé étant également situé au-dessus du tunnel de la ligne 14, qu'elle recoupe plusieurs fois. La ligne 7 plonge alors sous la Seine, en pente de 40 pour 1000, passe sous le RER C, puis la ligne 10, et remonte en rampe de 40 pour 1000 sous les facultés Paris 6 et 7, avant d'atteindre la station Jussieu, en correspondance avec la ligne 10, qui est ici parallèle. La ligne franchit le collecteur de la Bièvre en tréfonds d'immeuble, passe sous les arènes de Lutèce, et amorce une ascension en rampe de 40 pour 1000 avant de dépasser le raccordement avec la ligne 10, puis la station Place Monge. Alors en descente de 40 pour 1000, elle dessert la station Sancier-d'Aubenton, puis remonte sous l'avenue des Gobelins pour desservir la station Les Gobelins. Elle atteint alors la place d'Italie. Le tracé passe sous la boucle terminale de la ligne 5 avant d'atteindre la station Place d'Italie, puis sous le tunnel de la ligne 6 et enfin sous le raccordement entre les lignes 6 et 7. Quelques dizaines de mètres plus loin, la ligne reçoit deux raccordements des lignes 5 et 6. La ligne 7 poursuit son ascension jusqu'à la station Tolbiac, puis redescend jusqu'à la station Maison-Blanche. C'est après cette station que se situe l'ouvrage de séparation des voies des deux branches, sous la ligne de petite ceinture qu'elle croise. En direction de Méry-d'Ivry, la ligne se place sous le boulevard des Maréchaux, par une courbe vers l'est, et positionnée sous le boulevard Masséna, dessert successivement les stations Porte d'Italie, Porte de Choisy, puis, après une nouvelle courbe vers le sud-ouest, la station Porte d'Ivry, ancien terminus possédant trois voies à quai. À la sortie de cette station, une voie relie la ligne aux ateliers de Choisy. La ligne quitte alors Paris pour Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, où elle dessert la station Pierre et Marie Curie, Puis, après une pente de 36,75 pour 1000, la station terminale, Mairie d'Ivry, disposant de trois voies à quai, poursuivie par autant de voies de garage, situées sous la rue Robespierre. En direction de Villejuif-Louis-Aragon, la ligne se poursuit sous l'avenue de la Porte d'Italie, la voie 2 passant sous le tunnel de la branche Mairie d'Ivry. Elle quitte alors Paris pour le Kremlin-Bicêtre, également dans le Val-de-Marne. Le tracé se place jusqu'au terminus sous la route nationale 7. Après une longue interstation en rampe, la ligne 7 dessert la station Le Kremlin-Bicêtre, puis deux stations à Villejuif, avant d'atteindre son terminus Villejuif-Louis-Aragon, à deux voies, suivie de trois longues voies de garage. Sous-partie 2. Liste des stations. Au sud, la ligne 7 comporte deux branches, l'une vers Ivry-sur-Seine, au sud-est, l'autre vers Villejuif, au sud. La ligne est équipée du système d'information en ligne, couramment désigné par le sigle CIEL, S-I-E-L, système permettant l'affichage du temps d'attente des prochaines rames vers chaque destination dans le cas particulier de cette ligne à deux branches. La liste commence par le terminus nord de la ligne 7. Liste des stations. Station La Courneuve, 8 mai 1945. Commune desservie, La Courneuve. Correspondance, tram, ligne 1. Station Fort d'Aubervilliers, commune desservie, Aubervilliers. Station Aubervilliers, Pantin, 4 chemins. Commune desservie, Aubervilliers et Pantin. Station Porte de la Villette, Cité des sciences et de l'industrie. Commune desservie, 19e arrondissement de Paris. Station Corentin-Cariou, commune desservie, 19e arrondissement de Paris. Station Crimée, commune desservie, 19e arrondissement de Paris. Station Riquet, commune desservie, 19e arrondissement de Paris. Station Stalingrad, commune desservie, 10e et 19e arrondissement de Paris. Correspondance métro, ligne 2 et 5. Station Louis Blanc, commune desservie, 10e arrondissement de Paris. Correspondance métro, ligne 7 bis. Station Château-Landon, dessert le 10e arrondissement de Paris. Correspondance avec le Transilien. Train express régional Picardie. Train express régional Champagne-Ardennes. Et train grande ligne. Station Gare de l'Est, Verdun. Dessert le 10e arrondissement de Paris. Correspondance métro, ligne 4 et 5. RER, ligne E. Transilien. Train express régional Picardie, train express régional Champagne-Ardennes et train grande ligne. Station Poissonnière, dessert les 9e et 10e arrondissements de Paris. Station Cadet, dessert le 9e arrondissement de Paris. Station Le Pelletier, dessert le 9e arrondissement de Paris. Station Chaussée-d'Antin-Lafayette, dessert le 9e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 9. Station Opéra, dessert les 2e et 9e arrondissements de Paris, correspondance métro ligne 3 et 8, RER ligne A. Station Pyramide, dessert le 1er arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 14. Station Palais Royal, Musée du Louvre, dessert le 1er arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 1. Station Pont-Neuf, dessert le 1er arrondissement de Paris. Station Châtelet, dessert le 1er et le 4e arrondissement de Paris. Correspondance métro, ligne 1, 4, 11 et 14. RER, ligne A, B et D. Station Pont-Marie, Cité des Arts, dessert le 4e arrondissement de Paris. Station Sully-Morland, dessert le 4e arrondissement de Paris. Station Jussieu, dessert le 5e arrondissement de Paris, correspondance métro, ligne 10. Station Place Monge, Jardin des Plantes, Arène de Lutèce, dessert le 5e arrondissement de Paris. Station Sancier-d'Aubenton, dessert le 5e arrondissement de Paris. Station Les Gobelins, dessert le 5e et le 13e arrondissement de Paris. Station Place d'Italie, dessert le 13e arrondissement de Paris, correspondance métro, ligne 5 et 6. Station Tolbiac, dessert le 13e arrondissement de Paris. Station Maison Blanche, dessert le 13e arrondissement de Paris. Station Le Kremlin-Bicêtre, dessert le Kremlin-Bicêtre. Station Villejuif-Léo-Lagrange, dessert Villejuif. Station Villejuif Paul Valéant Couturier, hôpital Paul Brousse, dessert Villejuif. Station Villejuif Louis Aragon, dessert Villejuif. Station Porte d'Italie, dessert 13e arrondissement de Paris, correspondance tramway ligne 3. Station Porte de Choisy, dessert le 13e arrondissement de Paris, correspondance avec le tramway ligne 3. Station Porte d'Ivry, dessert le 13e arrondissement de Paris, correspondance tramway ligne 3. Station Pierre et Marie Curie, dessert Ivry-sur-Seine. Station Mairie d'Ivry, dessert Ivry-sur-Seine. Sous-partie 3, stations ayant changé de nom. 5 stations de la ligne 7 ont changé de nom au fil des ans. Rue d'Allemagne est devenue Jaurès en août 1914. Pont Notre-Dame est devenu Pont Notre-Dame Pont au Change le 1er novembre 1926, puis Châtelet le 15 avril 1934. Le nom Pont au Change figure encore sur les faïences des quais. Boulevard de la Villette est devenu Aubervilliers Boulevard de la Villette le 6 octobre 1942, puis Stalingrad le 10 février 1946. Pont de Flandre est devenu Corentin Cariou le 10 février 1946. Gare de l'Est est devenue Gare de l'Est Verdun le 21 juin 1953. Pierre Curie est devenu Pierre et Marie Curie le 8 mars 2007. Sous-partie 4. Stations à thème ou particulières. 5 stations de la ligne possèdent une décoration culturelle thématique originale. Cadet est doté sur les quais d'une décoration aux couleurs du drapeau des États-Unis. Chaussée d'Antin à Lafayette expose sur la voûte de la station une fresque de 470 mètres carrés réalisée par Hilton Mac Conico pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Le marquis de Lafayette montre de son doigt le nouveau monde sous la forme d'un enfant. L'enfant regarde les soldats et Lafayette. La liberté, présentée par une jeune femme, tente une flamme et regarde le traité de coopération entre Lafayette et Washington. Plus loin, Lafayette regarde vers la liberté. Palais Royal, musée du Louvre, possède un accès original, le kiosque des Noctambules, réalisé pour le centenaire du métro. Pont Neuf présente au centre de la station des reproductions de différentes pièces de monnaie de dimensions importantes évoquant la monnaie de Paris sur la rive gauche. Elles débutent d'un côté du quai et rejoignent l'autre en passant par la voûte. Les quais comportent par ailleurs un ancien balancier monétaire et deux vitrines exposant des pièces réelles. Villejuif Léo Lagrange a été redécoré sur le thème du sport lors du centenaire du métro. De nombreuses anecdotes et exploits des plus grands athlètes mondiaux sont exposés le long des quais. Sous-partie 5. Raccordement. La ligne compte 6 raccordements avec le reste du réseau. Avec la ligne 7 bis, aux extrémités des deux demi-stations Louis-Blanc, côté Château-Landon, dans chaque sens de circulation. Avec la ligne 5, à l'entrée de la station Gare de l'Est, sur la voie direction La Courneuve, bretelle en talon dans une section de tunnel à 4 voies. Avec la ligne 3, à la sortie de la station Chaussée-d'Antin, sur la voie direction Villejuif-Ivry, en pointe. Avec la ligne 10, à l'entrée de la station Place-Monge, sur la voie direction Villejuif-Ivry, en talon. Ce raccordement en double voie a été utilisé en service commercial en 1930-1931. Avec la ligne 5, entre les stations Tolbiac et Place d'Italie, sur la voie direction La Courneuve, en pointe. Avec la ligne 6, entre les stations Place d'Italie et Tolbiac, sur la voie direction Villejuif-Ivry, en talon. Sous-partie 6, ateliers. Article détaillé, liste des ateliers du métro de Paris. À l'origine, le matériel roulant de la ligne 7 était traité par les ateliers de la Villette. Ils sont raccordés à l'ouest de la station Porte de la Villette. Ils servent aujourd'hui de base d'entretien des voies pour l'ensemble du réseau. Depuis 1931 et le prolongement de la ligne 7 à la Porte d'Ivry et la construction des ateliers de Choisy, le matériel de la ligne 7 y est entretenu à l'atelier de maintenance AMT. Ils sont situés dans le 13e arrondissement de Paris, à proximité du boulevard périphérique, et sont raccordés sur l'arrière-gare de l'ancien terminus. 330 agents sont affectés à cet atelier en 2007. La maintenance lourde et la révision régulière, batterie, bobinage, peinture, du matériel de la ligne 7, comme tous les matériels du type MF77 du réseau, se déroule aux ateliers de Saint-Ouen. Ouverts en 1908, ils sont situés dans la commune de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, à proximité du boulevard périphérique, et sont accessibles via un embranchement de la ligne 4. Ils sont décomposés en trois entités distinctes: un atelier de maintenance pour les rames de la ligne 4, AMT, un atelier de révision de l'ensemble des rames MF77 et des véhicules auxiliaires du métro, et un atelier de révision des équipements électroniques de tous les matériels. L'ensemble occupe une surface totale d'environ 34 000 m². 200 agents sont affectés à cet atelier en 2007, hors AMT de la ligne 4. Partie 3. Exploitation. Sous-partie 1. Desserte. En 2008, le parcours complet de la ligne, dans les deux sens, demande entre 48 minutes et 56 minutes en fonction du type de marche A, B, C ou D de la Courneuve à Méridivry, comme de la Courneuve à Villejuif-Louis-Aragon. Comme sur toutes les principales lignes du métro, le premier départ a lieu de la tête de ligne vers 5h30, mais la longueur de la ligne conduit dans le sens nord-sud à une première circulation partielle à 5h29 au départ de la porte de la Villette. Depuis la Courneuve, le premier départ a lieu à 5h29 vers Méridivry et à 5h33 vers Villejuif-Louis-Aragon. Depuis cette station, en sens inverse, le premier départ vers la Courneuve a lieu à 5h28, tandis que depuis Méridivry, le premier départ vers la Courneuve a lieu à 5h30. Le dernier départ de la Courneuve a lieu à minuit 25 en direction de Villejuif-Louis-Aragon et à minuit 27 en direction de Méridivry. Pour le parcours complet de la ligne, le dernier départ de Méridivry est fixé à minuit 20 et de Villejuif-Louis-Aragon à minuit 27. Une dernière circulation partielle a lieu au départ de Méridivry à minuit 33 à destination de Porte de la Villette. Les nuits des vendredis au samedi, des samedis au dimanche et des veilles de fête au jour de fête, le dernier départ de la Courneuve est fixé à minuit 27 à destination de Méridivry et à 2h07 de Place d'Italie à destination de Villejuif-Louis-Aragon. Selon les affiches apposées dans les stations, ces nuits-là, à partir de 1h, la branche en direction de Villejuif-Louis-Aragon est déconnectée du reste de la ligne 7. Pour un voyageur se rendant vers Villejuif-Louis-Aragon, un changement de train à la station Maison-Blanche est obligatoire. Ces mêmes nuits, en sens inverse, le dernier départ de Villejuif-Louis-Aragon est fixé à 1h20 pour Place d'Italie, où une correspondance est possible avec le dernier métro venant de Méridivry, parti à 1h28 pour la Courneuve. L'intervalle moyen entre les rames est de 2 à 4 minutes en journée sur le tronc commun, de 5 à 7 minutes en extrême soirée, et de 4 à 5 minutes le dimanche, et de 10 minutes les nuits des vendredis au samedi, des samedis au dimanche et des veilles de fête au jour de fête après minuit 30, après 1h15 les nuits des vendredis au samedi. Sur chaque branche, les intervalles moyens en journée fluctuent de 3 à 7 minutes, de 10 à 13 minutes en soirée, de 7 à 9 minutes le samedi et de 7 à 9 minutes le dimanche. Sous-partie 2. Matériel roulant. Article connexe. Matériel roulant du métro de Paris. À l'ouverture de la ligne, le 5 novembre 1910, l'exploitation se déroule avec des rames de 5 voitures, dont 3 motrices, de 10,85 mètres. Mais vu la faiblesse du trafic, des trains de 4 voitures, dont 2 motrices, série 600, sont affectés à la ligne dès le 19 novembre. En 1923, la ligne 7 est exploitée avec des rames de 5 voitures, dont 3 motrices. Une deuxième tranche de rames MF67 est commandée fin 1969, pour l'équipement de la ligne 7. La livraison débute le 14 juin 1971 et s'achève en octobre 1973. L'ancien matériel Sprague-Thompson est envoyé sur la ligne 12, ce qui permet de réformer le matériel nord-sud de cette ligne, dont le dernier train est réformé le 15 mai 1972. La ligne 7 est équipée de rames de type MF77 à partir du 12 septembre 1979. Sous-partie 3, le personnel d'exploitation. On distingue deux catégories de personnel, les agents en station et les agents de conduite. Les agents de station ont pour mission de tenir la caisse, d'assurer le contrôle des voyageurs ainsi que la gestion des lieux, vérification des installations ou autres à définir selon les besoins du service. Quelques agents sont par ailleurs détachés pour la durée du service afin d'assurer les relèves de caisse. Les conducteurs assurent la marche des rames. Le service est assuré sur trois roulements de travail, jour, mixte et nuit. Sous-partie 4, tarification et financement. Article détaillé, tarification du métro de Paris. La tarification de la ligne est identique à celle en vigueur sur tout le reste du réseau et est accessible avec les mêmes abonnements. Un ticket T+ permet un trajet simple, quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes du métro, ainsi que le RER, mais uniquement dans Paris Intramuros pour ce dernier. Le financement du fonctionnement de la ligne, entretien, matériel et charges de personnel, est assuré par la RATP. Cependant, les tarifs des billets et abonnements, dont le montant est limité par décision politique, ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, le STIF, STIF, présidé depuis 2005 par le président du Conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Il définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle de 3,5 milliards d'euros aux transporteurs de la région grâce aux versements de transport payés par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques. Sous-partie 5, trafic. Le trafic de la ligne, incluant la ligne 7 bis, la situe en troisième position du réseau parisien pour sa fréquentation après les lignes 1 et 4. Cependant, de 1992 à 2004, le trafic est en diminution de 0,3%, ce qui place la ligne en avant-dernière position en termes de croissance sur le réseau, hors ligne 14. Détail du trafic. Année 1992, 120,8 millions de voyageurs. Année 1993, 118 millions de voyageurs. Année 1994, 116,4 millions de voyageurs. Année 1995, 102 millions de voyageurs. Année 1996, 109,4 millions de voyageurs. Année 1997, 111,4 millions de voyageurs. Année 1998, 115 millions de voyageurs. Année 1999, 115,6 millions de voyageurs. Année 2000, 118,4 millions de voyageurs. Année 2001, 120,7 millions de voyageurs. Année 2002, 119,8 millions de voyageurs. Année 2003, 117,3 millions de voyageurs. Et année 2004, 120,5 millions de voyageurs. Les stations les plus fréquentées desservies par la ligne sont, par ordre décroissant, en trafic annuel toutes lignes incluses, Gare de l'Est avec 15,66 millions de voyageurs, Place d'Italie avec 13,10 millions de voyageurs, Châtelet avec 12,84 millions de voyageurs et Opéra avec 10,47 millions de voyageurs. En 1998, le trafic quotidien de la seule ligne 7 atteint 398 975 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 260 033 le samedi et 156 850 le dimanche. Partie 4. Prolongements envisagés. Attention, cette section contient des informations sur un projet de transport en Île-de-France. Il se peut que ces informations soient de nature spéculative et que leur teneur change considérablement alors que les événements approchent. Sous-partie 1, prolongement au nord. Un prolongement, pour l'heure hypothétique, est inscrit à la phase 2, horizon 2013-2020, du schéma directeur de la région Île-de-France, SDRIF. Les études prévoit une extension de 3,7 km le long de la route nationale 2 avec deux nouvelles stations, l'une à la gare du Bourget, RERB, et la station Terminus avec sortie directe sur le parvis du musée de l'air et de l'espace pour un coût estimé de 340 millions d'euros. Sous-partie 2, prolongement au sud. Un projet existe qui laisserait à la ligne 14 à conduite automatisée, après le prolongement de celle-ci à Maison-Blanche, la branche sud, Villejuif, permettant ainsi à la ligne 7 de ne plus avoir de branche. Toutefois, selon le projet de schéma directeur de la région Île-de-France, adopté par délibération du Conseil régional d'Île-de-France le 25 septembre 2008, ce projet de reprise par la ligne 14 de la branche Villejuif ne semble plus être d'actualité. À l'horizon 2013, la branche sud Villejuif doit être prolongée en surface par un tramway en direction d'Athis-Mons. Partie 5. Tourisme. La ligne 7 traverse entièrement Paris, du nord-est au sud-est, et dessert plusieurs lieux d'animation, monuments et quartiers touristiques, dont les principaux sont le quartier de la Villette, avec notamment la Cité des sciences et de l'industrie, la Géode et le Synax, station Porte de la Villette. La Gare de l'Est, station Gare de l'Est et Château-Landon. L'Opéra Garnier, station Opéra. Le Pont Neuf et l'Hôtel des Monnaies, station Pont Neuf. La place du Châtelet et son quartier, station Châtelet. Les quais de Seine, au sud du quartier du Marais, et l'île Saint-Louis, station Pont-Marie et Sully-Morland. La partie orientale du quartier latin, station Jussieu, place Monge et Sancier-d'Aubenton. La place d'Italie et le quartier de la Butte aux Cailles, station Place d'Italie. Le quartier asiatique de Paris, au sud du 13e arrondissement, station Porte d'Italie, Porte de Choisy et Porte d'Ivry. Partie 6, annexe. Sous-partie 1, article connexe. Métro de Paris, liste des stations du métro de Paris et aménagement des stations du métro de Paris. Sous-partie 2, bibliographie. Jean Robert, Notre métro, édition Jean Robert, 1983, 512 pages. Le patrimoine de la RATP, édition Floic, 1996, 400 pages. ISBN 2-84-234-007-8. Jean Tricouard, Un siècle de métro en 14 lignes, de Bienvenue à Météore. Clive Lamming, Métro insolite. Gaston Jacobs, Le métro de Paris, un siècle de matériel roulant, édition La vie du rail, 2001, 223 pages, ISBN 2-90-28-08-97-6. Roger-Henri Guérand, L'aventure du métropolitain, édition La découverte, 1999, 197 pages. Sous la direction de François Ganot et Henri Zuber, Métrocité, le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris, 1871-1945, édité par les musées de la ville de Paris, 1997, 191 pages, ISBN 2-87-900-374-1. Jean Tricouard, Le métro de Paris, 1899-1911, image de la construction, édition Paris Musée, 1999, 215 pages, ISBN 2-87-900-481-0. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, GNU, disponible à l'adresse www.gnu.org/copyleft/fdl.html.